Il est midi et demi sur France Culture. Tout de suite, le journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Emmanuel Macron vient de prononcer l'éloge funèbre du gendarme Arnaud Beltrame, dont le nom, a-t-il dit, est devenu celui de l'héroïsme français. Il incarne l'esprit français de résistance. Le chef de l'État appelle à un regain de vigilance et de civisme face à l'islamisme, ennemi insidieux, dit-il. Nous l'entendrons, ainsi que le compte-rendu d'Anne Fauquemberg. Une marche blanche en fin d'après-midi à Paris, des rassemblements dans d'autres villes en mémoire de Mireille Knoll. Le Front National et la France Insoumise affirment ce matin qu'ils vont participer à cette marche malgré l'opposition du CRIF. Analyse de Ludovic Piétenu. Un projet de loi antifraude adopté en Conseil des ministres qui prévoit d'accroître le recours aux renseignements, renforcer aussi l'arsenal judiciaire pour lutter plus efficacement contre l'évasion fiscale. Explications et commentaires d'Anne Lorchouin. Le député Les Républicains Éric Woerth qui présente un rapport sur l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes qui va se traduire, selon lui, par une perte nette comprise entre 200 et 600 millions d'euros pour les finances publiques. Dossier suivi par Véronique Rebérotte. À l'étranger, cette visite secrète et première visite de Kim Jong-un à Pékin, signe de la volonté de rapprochement des deux alliés traditionnels avant le sommet prévu entre le dirigeant nord-coréen et le président américain Donald Trump. Analyse diplomatique de Marie-Pierre Vérot, l'invitée de la séquence interview, l'historienne Valentine Zuber, qui est chercheuse à l'école pratique des hautes études dans la dernière partie de la Grande Table, Olivia Jesbert.
On reçoit le sociologue Stéphane Beau pour La France des Belloumi, portrait de famille qui paraît à la découverte.
On commence donc par cet hommage national au gendarme Arnaud Beltrame ce matin dans la cour de l'hôtel des Invalides. Le président Macron qui prononce l'éloge funèbre de cet officier de 44 ans qui a fait don de sa vie pour protéger nos concitoyens, disait-on à l'Élysée ce matin. Et Monsieur Macron appelle aujourd'hui donc à un regain de vigilance et de civisme face à l'islamisme qu'il a qualifié d'ennemi insidieux. On écoute un extrait.
Ce ne sont pas seulement les organisations terroristes, les armées de Daesh, les imams de haine et de mort que nous combattons. Ce que nous combattons, c'est aussi cet islamisme souterrain qui progresse par les réseaux sociaux, qui accomplit son œuvre de manière invisible, qui agit clandestinement sur des esprits faibles ou instables, trahissant cela même dont il se réclame, qui sur notre sol endoctrine par proximité et corrompt au quotidien. C'est un ennemi insidieux qui exige de chaque citoyen, de chacun d'entre nous, un regain de vigilance et de civisme.
Alors la cérémonie vient donc de s'achever il y a quelques minutes seulement. Vous venez d'y assister, Anne Fauquemberg. On vous retrouve donc dans la cour de l'hôtel des Invalides, avec évidemment beaucoup d'émotions et un hommage tout à fait remarqué du président de la République.
Oui, c'était un hommage, effectivement, hommage national chargé d'émotions dans la cour intérieure des Invalides. C'est d'abord le silence qui a le plus résonné, celui des centaines de personnes présentes, toutes à leur recueillement, l'ensemble de la classe politique, les autorités religieuses et militaires, mais aussi les familles des victimes de l'attentat de Trèbes et les nombreux civils qui ont ressenti le besoin de se joindre à cet adieu de la République au lieutenant-colonel Beltrame. L'officier de gendarmerie a été assassiné vendredi dernier après avoir sauvé une otage retenue par le terroriste Radwan Lagdim. Un homme qui a donné sa vie pour que cette femme puisse s'enfuir, et c'est cette dimension héroïque qu'a mis en avant le président Macron lors de son éloge funèbre. Un président qui avait au préalable respecté le protocole habituel de ce type de cérémonie, revue de troupes puis salut aux familles des victimes. Le chef de l'État qui s'est livré ensuite à un discours centré sur l'exemplarité. Arnaud Beltrame montre la voie, a-t-il expliqué. Il a conjuré l'esprit de renoncement et d'indifférence qui parfois menace. Il a montré que le socle vivant de la République, c'est la force d'âme. Il faut que sa leçon demeure gravée dans le cœur des Français. Emmanuel Macron qui a aussi interrogé, je cite, la part mystérieuse de l'engagement, celle qui est partagée par les forces de l'ordre militaire à qui il a rendu hommage et dont bon nombre se sont mis au garde à vous lors de l'hymne aux morts joué à l'instant par l'orchestre de la garde républicaine. Tout au long de cet hommage, il n'y avait qu'un seul regard, celui d'une millier de personnes présentes et des caméras de chaînes françaises, internationales tournées vers le cercueil du lieutenant-colonel, un cercueil recouvert du drapeau tricolore et placé par ses frères d'armes de la garde républicaine au centre de cette cour des Invalides. L'officier qui a été élevé à titre posthume au grade de colonel de gendarmerie et au rang de commandeur de la Légion d'honneur, son cercueil vient de quitter la cour des Invalides. Il était porté par ses frères d'armes, des gendarmes, suivi de sa famille, et le chef de l'État a fermé la marche accompagné de sa femme Brigitte Macron.
Merci beaucoup Anne Fauquemberg, donc en direct de la cour des Invalides. On salue l'invité de la séquence interview qui est historienne, Valentine Zuber, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'école pratique des hautes études. Alors, vous êtes spécialiste de la religion mais aussi de la laïcité. On peut noter aussi dans le discours de M. Macron ce matin cette phrase, cet appel à la jeunesse de France qui cherche, dit-il, sa voie, sa place, qui redoute l'avenir, se désespère de trouver en notre temps de quoi rassasier la faim d'absolu qui est celle de toute jeunesse. Et il dit, l'absolu est là, donc en montrant le gendarme, devant nous, mais il n'est pas dans les rangs fanatiques où veulent vous entraîner les adeptes du néant, il n'est pas dans le relativisme morne. Alors finalement, on voit bien que là, le chef de l'État donne une dimension, j'allais dire presque sociétale et transcendantale à cette intervention.
Oui,
à cette,
peut-être pas transcendantale, mais certainement spirituelle. Et il cherche là, par cet exemple de cet officier qui a donné sa vie pour sauver nos concitoyens d'une mort atroce, il donne un exemple positif. Et c'est peut-être ce qui manquait au lendemain des autres attentats. C'est-à-dire qu'il y avait surtout des victimes, et on était dans le registre des victimes et du mal qui s'opposait aux victimes. Là, on a un héros positif et je pense qu'il un exemple et un guide peut-être vers une plus grande solidarité à l'intérieur de notre pays.
Parmi les invités, il y avait les responsables de l'opposition, de droite notamment, Laurent Wauquiez, Marine Le Pen, aux côtés de l'ensemble du gouvernement, aux côtés aussi des anciens présidents Sarkozy et Hollande, les familles des victimes, tués et blessés, bien sûr, ceux ayant vécu les événements. Auparavant, le cortège avait stationné un quart d'heure devant le Panthéon avant de traverser le quartier latin où il a été salué par quelques 2000 collégiens et lycéens. Je vous propose d'entendre le reportage de Boris Lomagne.
Derrière les barrières, rue Soufflot, sous la pluie, les badauds se serrent les uns contre les autres, le cou tendu pour apercevoir le cortège. Un peu en retrait, stoïque, sous son parapluie, Franck, qui a bien connu le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame.
On a été dans la même école, qui est l'EIE, l'École Européenne d'Intelligence Économique. C'était quelqu'un de très humain, en fait, et qui était vraiment prêt à aider les gens en fait, qui étaient avec lui.
Le sourire, Franck le retrouve lorsqu'il regarde autour de lui.
Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde en fait, et surtout des enfants en fait. Je pense que c'est vraiment bien, c'est peut-être aussi un petit peu de joie, enfin un petit peu de. Même si c'est un moment quand même triste.
La vivacité des enfants qui rient sous la pluie, et pourtant les élèves de l'école Victor Cousin connaissent bien l'enjeu de cet hommage.
C'est triste et le monsieur il est assez héroïque parce que c'est quand même fort de se sacrifier pour quelqu'un qu'on connaît même pas.
C'est pour une bonne cause.
Il faut beaucoup de courage pour ça surtout.
Certains enfants s'amusent mais l'enseignante veille au grain.
Ça reste un moment sérieux donc on est obligé de les rappeler à l'ordre un peu toutes les 5 minutes.
Et oui parce qu'à côté certains sont bouleversés. C'est le cas de ce monsieur tiraillé entre deux émotions opposées.
L'horreur devant l'événement et puis... L'admiration pour l'action de ce gendarme, c'est émouvant.
Le sacrifice, le sens du devoir, le courage, voilà les mots qui reviennent dans les conversations. Puis tout à coup, tout le monde se tait. Le corbillard passe, puis rapidement la foule se disperse, laissant un goût amer à Marie-Claude.
Je crains toujours que ce soit un feu de paille, quoi. C'est spontané et puis bon... Après, la vie continue avec tous ses malheurs et ses joies aussi.
La joie, difficile à apercevoir ce matin, hormis dans le regard des enfants qui reprennent le chemin de l'école en riant.
Voilà, sur le fond, on a appris ce matin de la bouche du ministre de l'Intérieur que l'auteur des attaques de Carcassonne et de Trèbes était fiché S donc depuis 2014, ça on le savait, mais qu'il allait être mis en veille par les autorités qui ne pensaient pas, affirme-t-il, à une attaque précoce. Écoutez les explications de Gérard Collomb ce matin sur France Inter.
C'est vrai qu'il avait reçu une convocation, mais la convocation c'était plutôt pour lui dire qu'on allait finalement laisser son dossier, parce qu'il y avait eu un examen qui avait été fait par le GED, le groupe d'évaluation départementale, et toutes les écoutes qui avaient été réalisées, en même temps les sources humaines qui étaient près de lui, montraient que finalement personne ne pensait qu'il y allait avoir une attaque précoce, et donc tout le monde pensait que finalement les choses devaient être laissées en état. Si vous voulez, c'est ce qui est difficile dans ce genre d'affaires. Par exemple, lorsque vous regardez sa journée, le matin, il part de chez lui à 8h30. Il va mener sa petite sœur à l'école qui est au CE2. Donc vous voyez, vous emmenez votre petite sœur à l'école et une heure après, vous tuez deux personnes. Il y a quand même une schizophrénie qui est tout à fait improbable. Et donc, vous ne pensez pas, quand quelqu'un part à l'école, qu'il va,
tuer
quelques heures après, tuer de manière un peu massive.
Donc, pas de dysfonctionnement.
Non, pas de dysfonctionnement.
Gérard Collomb avec Léa Salamé. La démission du maire de Sevran, Stéphane Gatignon, il se dit usé par le mépris de l'État pour les banlieues. Dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, publiée aujourd'hui, plusieurs élus de Seine-Saint-Denis ont tiré la sonnette d'alarme sur les difficultés de la rénovation urbaine en danger, disent-ils, dans leur département. Et puis interview au Monde aussi de Stéphane Gatignon qui déclare que le nouveau monde de Macron est le poste politique. Fin de citation. Une marche blanche en fin d'après-midi à Paris, des rassemblements dans d'autres villes en mémoire de Mireille Knoll, dont le meurtre a ravivé les inquiétudes sur l'antisémitisme en France. On voit monter, disait encore ce matin Gérard Collomb, l'antisémitisme, un antisémitisme fort. Le président des Républicains, Laurent Wauquiez, estime que la République n'a pas su protéger Mireille Knoll. En tout cas, les appels à participer à cette marche se sont multipliés. La plupart des partis politiques et aussi de très nombreuses associations annoncent leur présence. Le Front National et la France Insoumise affirment également ce matin qu'elles vont y participer malgré l'opposition du CRIF. Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Francis Khalifa, affirmait hier que ni Marine Le Pen ni Jean-Luc Mélenchon n'étaient les bienvenus. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, assurait, lui, que chacun était libre de se rendre à une manifestation dans ce pays. Et puis aussi, ajoutons que le fils de Mireille Knoll estimait aussi que tout le monde était concerné. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors tout le monde veut effectivement participer à cette marche blanche, pas forcément toujours avec les mêmes arrière-pensées.
Oui, beaucoup se sont en tout cas distingués très vite de la position de l'organisateur, de la position du CRIF, et par-dessus tout une voix forte et plus que légitime, celle d'un des fils de Mireille Knoll, Daniel Knoll, ce matin au micro d'RMC et de BFM TV.
Les gens qui ont une mère peuvent me comprendre. Or, tout le monde a une mère. Le CRIF fait de la politique. Et moi, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur à tout le monde. Tous les gens sont concernés.
Une parole qui transcende les clivages, les oppositions que certains continuent d'entretenir et qu'ils le fassent est tout à fait leur droit, qu'il existe des positions divergentes est tout à fait respectable dans un débat, mais plus difficilement compréhensible dans une marche blanche qui par définition est silencieuse. Il n'y a pas de slogan, pas de prise de parole, c'est un moment de communion et il est un peu vain et naïf de penser qu'en tant qu'organisateur on est en capacité de trier des gens, d'en accepter certains, d'en rejeter d'autres. À l'heure d'appeler un rassemblement, c'est ce message surprenant a finalement fait passer le Conseil représentatif des institutions juives de France, critiqué au sein même des Juifs de France, dont certains ont affiché sur les réseaux sociaux le souhait que ce soir, ce soit une nation qui se lève face à l'horreur, et non une nation qui présente ses condoléances à une communauté. Ce sont les mots, Antoine, de Delphine Horviller, la femme rabbin du mouvement juif libéral de France. La lutte contre tout acte de haine n'est-il pas supposé tous nous rassembler? Si cette question, dont la réponse semble évidente, se pose aujourd'hui, c'est une preuve de l'état de division dans lequel se trouve le pays.
Merci beaucoup, Ludovic Piétenu. Et puis j'ajoute que, toujours selon le ministre de l'Intérieur, le principal suspect dans ce meurtre de Mireille Knoll n'était pas du tout radicalisé. Ils sont allés attaquer parce qu'ils pensaient que cette dame, qui ne pouvait plus se déplacer, donc était une proie facile, avait de l'argent qu'on pouvait prendre facilement. Donc déclaré encore Gérard Collomb dans cette interview ce matin. Sur France Inter, un petit mot là-dessus, Valentine Zuber également. On va revenir évidemment avec vous sur la place des religions en France, sur l'évolution éventuelle de la laïcité, sur la position du chef de l'État là-dessus. Un mot de cette marche, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce qu'elle révèle selon vous, la manière dont elle s'organise, de manière un petit peu tendue parfois?
Oui, c'est dommage que ça s'organise effectivement de manière un petit peu tendue, parce que je pense qu'il est nécessaire, comme l'hommage de ce matin unanime où tout le monde, toute la nation et tous ses représentants, toutes les organisations religieuses étaient représentées. De la même façon, face à la haine, face à la haine raciale, face à l'antisémitisme, il est nécessaire que toute la nation se rassemble et suspende pendant quelque temps son jugement politique.
C'est pas tout à fait le cas, donc ça révèle quoi ?
Ça révèle qu'il y a encore des points d'achoppement extrêmement forts et que le grand bouleversement politique auquel on a assisté avec l'élection du président de la République a encore des répliques devant lui, c'est-à-dire que les gens essayent de se positionner et que ça se fait quelquefois de manière un petit peu hectique et difficile à justifier d'un point de vue moral.
Voilà, on se retrouve dans quelques minutes donc pour la séquence interview. Le reste de l'actualité avec ce projet de loi d'abord anti-fraude qui a été adopté par le Conseil des ministres et qui prévoit d'accroître le recours au renseignement, de renforcer l'arsenal judiciaire aussi pour lutter contre l'évasion fiscale, un sujet souvent débattu avec donc de nouvelles mesures, Anne-Laure Choin.
Oui, un texte qui prévoit notamment un arsenal punitif bien plus sévère que ce qui existait jusqu'à présent, avec tout de même une faiblesse et pas des moindres. À aucun moment ce projet de loi ne propose de supprimer un système pourtant largement remis en cause, celui du verrou de Bercy. Un verrou qui tient de la coutume, et cette coutume veut que Bercy seul puisse décider qu'il y ait poursuite pénale en cas de fraude fiscale. En d'autres termes, Bercy seul peut décider d'ajouter une peine de prison aux éventuelles sanctions financières. C'est grâce à ce verrou que Serge Dassault ou Liliane Bettencourt, par exemple, ont pu éviter une sanction pénale. Le parquet national financier, tout comme l'avocat Éric Dupond-Moretti, tout comme de nombreux députés, y compris de droite, s'en sont émus dernièrement. Et une mission parlementaire est désormais chargée d'évaluer si oui ou non ce verrou de Bercy doit être supprimé, mais dans le projet de loi présenté aujourd'hui, rien. Alors certes, les sanctions financières en cas de fraude fiscale avérée seront très alourdies et étendues. Elles pourront toucher les officines qui proposent des montages financiers clés en main, par exemple. Les moyens mis en œuvre pour traquer la fraude fiscale vont également être substantiellement augmentés avec la création au sein de Bercy d'une structure d'une cinquantaine d'agents, une sorte de fisc judiciaire qui pourra épauler le parquet national financier. Cette police fiscale pourra également compter sur les moyens mis dans la recherche de données et les échanges d'informations entre les administrations. Et puis les fraudeurs condamnés au pénal verront leur nom étalé dans la presse, et ce même si ils ont reconnu leur tort via la procédure de plaidé coupable qui sera mise en place également. Reste le symbole. Tout sévère que se veuille Bercy avec ce texte, l'administration fiscale garde pour l'instant le pouvoir de décider qui sera ou pas poursuivi pénalement. La porte ouverte aux copinages politiques reste ouverte pour l'instant.
Anne-Laure Choin, merci. Le député Les Républicains de l'Oise, Éric Woerth, présentait ce matin la commission des finances de l'Assemblée, commission qu'il préside, un rapport sur l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes qui va se traduire, cet abandon, selon ce rapport, par une perte importante, comprise entre 200 et 600 millions d'euros pour les finances publiques. Véronique Rebérotte, vous avez assisté ce matin à cette présentation de M. Woerth.
Voilà, une sacrée fourchette en tout cas, de 400 millions d'euros, faisait remarquer ironiquement quelques membres de la commission des finances à la fin de la présentation, donc par Éric Woerth, d'un rapport d'une dizaine de pages. L'abandon de Notre-Dame-des-Landes au profit donc du réaménagement de l'actuel aéroport de Nantes coûtera entre 200 et 600 millions d'euros à l'État et aux collectivités, subventions déjà versées, manque à gagner, indemnisation, etc., quand le bénéfice net de cet abandon pour les finances publiques est lui clairement chiffré, 182 millions économisés par l'État. 200 ou 600 millions perdus, tout dépendra, lit-on dans le rapport, du résultat des discussions en fait avec Vinci sur l'indemnisation versée désormais au groupe, entre 0 et 350 millions d'euros, disaient les médiateurs dans un rapport précédent, entre 100 et 510 millions d'indemnités, estime Éric Woerth. Une négociation, un compromis sur lequel il faudra être très vigilant, estime aussi le président de la commission des finances, car négociation ne doit pas conduire à des compensations que l'État accorderait à Vinci sur d'autres dossiers. Un député dans l'assistance s'est demandé si le fait que Vinci serait déjà bien placé pour remporter la mise dans la privatisation des aéroports de Paris n'était pas déjà la preuve d'un début de quelque chose. Dans son rapport, l'ex-ministre de Nicolas Sarkozy s'est dit aussi convaincu que dès l'été 2015, l'État avait déjà fait une croix sur Notre-Dame-des-Landes et qu'il tablait, lit-on dans le rapport, sur un résultat négatif de la consultation, une consultation qui dira oui à Notre-Dame-des-Landes. Ces dernières années d'attentisme auront affaibli en tout cas l'autorité et la parole de l'État, conclut Éric Woerth, alors que l'État entame maintenant des négociations difficiles avec Vinci. Vinci qui a refusé de répondre aux questions du président de la Commission des Finances.
Merci Véronique Rebérotte. L'actualité à l'étranger, on s'arrête sur cette visite secrète et première visite de Kim Jong-un à Pékin, le président nord-coréen accueilli en grande pompe. C'est le signe évidemment de la volonté de rapprochement encore des deux alliés traditionnels et surtout avant ce fameux sommet prévu entre le dirigeant nord-coréen et le président américain Donald Trump. L'agence de presse Chine Nouvelle souligne le rapprochement des deux voisins divisés ces dernières années quand même par l'appui de Pékin aux sanctions internationales qui visaient à forcer Pyongyang à renoncer à son programme nucléaire. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette visite, Marie-Pierre Véraud ?
En tout cas que c'est un tournant dans les relations bilatérales. C'est ce qu'écrit l'agence de presse nord-coréenne, allusion en effet à ces sanctions et ces derniers derniers mois de tensions entre deux pays qui restent pourtant de proches alliés. Une visite certes tenue secrète, mais en grande pompe, qui signe la volonté de Pyongyang de se concerter avec Pékin avant les sommets prévus le mois prochain entre le leader nord-coréen et le président sud-coréen, et celui avec Donald Trump, ce qui serait sans précédent. Kim Jong-un a parlé d'un devoir solennel à propos de sa visite à Pékin. Il n'y a aucun doute, ajoute-t-il, que ma première visite à l'étranger devait être pour la capitale chinoise. Il s'agit bien de montrer l'unité des deux pays vis-à-vis de la Maison-Blanche, d'autant que les récentes nominations de Vattenguerre au département d'État et à la sécurité nationale ont pu inquiéter Pyongyang. Il n'est pas impossible non plus que Kim Jong-un souhaite alléger les sanctions qui frappent son régime et que la Chine a voté. Alors on retiendra que le numéro 1 nord-coréen a clairement formulé son souhait d'une dénucléarisation de la péninsule, mais quand les États-Unis attendent un démantèlement de leur arsenal, la Corée du Nord, elle, privilégie un retrait de la protection nucléaire que les États-Unis offrent à la Corée du Sud. En ligne de mire encore la réunification de la péninsule coréenne, souhaitée par le Nord, mais qui inquiète la Chine. Beaucoup de points restent à éclaircir. Un émissaire chinois de haut rang doit se rendre à Séoul pour briefer la Corée du Sud sur la teneur de ses derniers entretiens. L'intense activité diplomatique de ces derniers mois risque donc encore de s'accélérer.
Merci Marie-Pierre Véron. En tout cas, Donald Trump affirme à l'instant que cette rencontre s'est très bien passée entre Xi Jinping et Kim Un-jung. Et il affirme que le président Kim a hâte maintenant de le rencontrer. Fin de citation. Retour vers notre invité donc pour la séquence interview, l'historienne des religions et de la laïcité, Valentine Zuber, qui a écrit notamment La laïcité en débat aux éditions Le Cavalier Bleu. Question plus générale par rapport à ce qu'on a pu dire au début de ce journal. Comment est-ce que les religions évoluent en France? Leur place, est-ce qu'elle évolue? Est-ce qu'elle se transforme? On a l'impression que oui, a priori. Est-ce que vous avez ce sentiment aussi?
Oui, il y a évidemment des évolutions. Et des évolutions qui sont à la fois numériques, puisque il y a des religions qui augmentent, dans le nombre de participants, de disciples augmentent. Et puis, il y a des religions qui sont stables et qui sont là historiquement depuis très longtemps. Donc, effectivement, c'est un paysage extrêmement changeant. On parle toujours de l'islam, mais il y a une réalité beaucoup plus discrète, mais qui est réelle, qui est l'expansion d'un protestantisme évangélique, en particulier dans les populations d'outre-Atlantique, ou bien d'Afrique subsaharienne. Donc il y a vraiment là des dynamismes extrêmement forts.
Alors, dynamisme religieux, dans certaines catégories en tout cas, qui s'opposent peut-être à un moindre dynamisme de la religion majoritaire. Est-ce que ça nécessite de repenser la laïcité qui a été quand même faite justement précisément pour s'opposer, en tout cas pour contenir le christianisme?
Alors,
le catholicisme. Le catholicisme.
La laïcité, effectivement, c'est un combat, un processus qui date de la Révolution française et qui cherche à réguler et à permettre aussi la liberté d'expression, mais dans les limites de la loi et de l'ordre public, de toutes les convictions, qu'elles soient religieuses ou non, par ailleurs. Elle se caractérise par une pratique juridique, mais aussi par une pratique politique, et on la connaît évidemment par la loi de 1905 qui instaure la neutralité de l'État et la non-discrimination des convictions ou des religions sur le territoire français.
Est-ce que vous avez le sentiment que le président de la République veut faire bouger un petit peu le curseur sur cette laïcité?
Je ne crois pas qu'il veuille en faire bouger le curseur. Il veut que toutes les religions ou toutes les convictions puissent participer de l'effort national pour une société plus apaisée, et je pense que son invitation aux représentants des cultes ce matin, et comme il l'a dit aussi, sa conception de la laïcité telle qu'il l'a décrite lors des vœux des représentants des cultes, est une laïcité qui se veut ouverte à toutes les propositions, pourvu, encore une fois, qu'elle soit dans le respect de l'ordre public.
Oui, alors on connaît aussi ces mots sur pas de religion de la laïcité, pas d'extrémisme finalement, ou de radicalisation même, aurait-il dit, sur la laïcité. Mmh. Ça veut dire que quand même, il prend une position plutôt sur l'ouverture, l'aspect ouvert du concept de laïcité.
Oui, l'aspect ouvert, l'aspect cadre juridique et politique, et certainement pas l'aspect combat philosophique.
Alors, on attend quand même un discours sur l'islam. Enfin, il paraît qu'on devait, le chef de l'État devait s'exprimer là-dessus. Apparemment, ça a été reporté. En quoi ça constituerait une difficulté pour le système de pensée macronien de la laïcité versus religion?
Mais c'est un peu compliqué parce que toutes les tentatives différents dirigeants politiques depuis plus d'une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années, c'est de trouver un moyen d'avoir un interlocuteur unique du côté de l'islam. Or, c'est pratiquement impossible puisque l'islam n'est pas une religion, mais une multiplicité de communautés et de pratiques religieuses qui ne sont pas toutes pareilles et de communautés qui ne veulent pas forcément travailler ensemble. Donc, cette hypothèse de construction d'un islam de France est extrêmement difficile à mettre en œuvre et peut-être ce n'est pas, à mon avis, le bon moyen pour faire vivre une société paisiblement. Je pense que toutes les tendances musulmanes, évidemment pas les tendances terroristes ou radicalisées, bien entendu, on n'excuse jamais la violence religieuse, on est en-delà de la loi, mais toutes les tendances de l'islam peuvent elles aussi participer du débat national et être représentées.
Valentine Zuber, merci beaucoup. Je renvoie donc à votre livre « La laïcité en débat ». C'est édité aux éditions Le Cavalier Bleu. Météo France annonce un nouveau passage pluvieux et venteux. Le temps va rester plus sec sur les régions de la Méditerranée, mais le ciel restera quand même plus ou moins voilé là-bas aussi. Température 9 à 20 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal 18h, Aurélie Kiffer.